Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière.
Quand vous lisez Aristote, pour petit à petit avoir un petit contact avec lui, hein. Quand vous lisez Aristote, il faut bien comprendre la différence des catégories, qui sont un livre relativement facile, et la philosophie première, qu'on appelle métaphysique, qui est un livre relativement difficile, n'est-ce pas? Il y a le relativement des deux côtés. Parce que dans la philosophie première, il y a des passages très difficiles. Alors, il ne faut pas trop vous attaquer tout de suite aux passages difficiles. Il faut demander à un ancien qui connaît parfaitement la philosophie première d'Aristote, n'est-ce pas, qui l'a lu 50 fois, de vous dire à peu près les passages plus faciles qu'on doit laisser tomber. Parce que je crois qu'il faut petit à petit arriver, je ne dis pas à lire tout Aristote, je ne vous demande pas ça, mais lire les choses essentielles d'Aristote, les catégories, l'éthique, quelques grands livres de philosophie première, le De Anima, c'est déjà pas si mal. Mais alors ceux qui veulent faire un peu des escalades, le Decello. C'est des escalades, ça, c'est merveilleux, le Decello. C'est un roman, vous lire ça le soir, et vous avez des imaginations extraordinaires sur le Decello. Parce que c'est beau, c'est beau. C'est très différent, c'est très différent. Alors, regardons dans la philosophie première le livre Delta. Le livre Delta est un livre que tous nous pouvons lire. Transposez votre livre Delta pour vous. C'est votre petit dictionnaire philosophique. Petit dictionnaire philosophique qui consiste à savoir que les termes philosophiques ont des significations particulières. Alors, il y a le mot qualité parmi ces mots au chapitre 19. Et ce qui est très étonnant, c'est que la manière dont Aristote aborde la qualité dans le livre Delta et la qualité dans les catégories, c'est deux visions totalement différentes. Ce qui fait que les philologues, les purs philologues, sont toujours très déroutés. Comment voulez-vous que le même homme puisse, de fait, avoir deux langages tout à fait différents? Donc les catégories, c'est pas de lui, c'est... Donc le livre Delta, et ainsi de suite. Voyez, alors on doit d'abord essayer de comprendre que peut-être Aristote, puisqu'il parle de l'analogia, il parle de l'analogie, que peut-être Aristote sait ce que c'est que l'analogie, et qu'il l'exerce. Et que par le fait même qu'il exerce le mot, l'analogie, la signification d'un même mot peut être diverse. Le mot « qualité » employé dans les catégories a une signification différente que le mot « qualité » employé en philosophie première. Mais ça, c'est très déroutant, parce que pour le comprendre, il faut l'avoir compris avant de le lire. N'est-ce pas ? Il ne faut jamais l'oublier, ça. Parce que si vous ne comprenez pas, vous dites « mais je comprends ». Alors, vous avez pris les catégories. Puis vous avez appris les catégories par cœur, et vous avez dit la qualité maximum dans les catégories, c'est exis. existe. Elle est juste. Elle a la qualité maximum. Qu'est-ce que je vois dans la philosophie première, qui doit nous donner quelque chose de beaucoup plus précis? Première chose que la philosophie première nous dit, la qualité, modalité de l'être, donc c'est une modalité de l'être relative à l'usia. Sous cet aspect, la qualité apparaît en premier lieu comme la différence de l'usia, la diaphora, la différence, pas l'excès. Elle est relative à la substance. Voilà comment on la regarde. Et c'est la différence de l'usia, ce qui nous manifeste l'originalité propre de telle usia et ce qui la distingue de telle autre. Alors, c'est extrêmement curieux parce que l'usia, c'est quelque chose de substantiel, c'est la substance. La qualité, elle est un prédicament accidentel. Comment l'accident peut-il faire différer la substance? Et c'est dit textuellement. Ah oui, tout de suite, le problème très très net qui se pose et qui est intéressant.
Bon, au niveau catégorique, nous avons face à l'accident, du moins. C'est un accident. C'est l'accident le plus noble.
C'est l'accident qui a toute sa dignité d'accident. C'est vrai. Saint Thomas, nous verrons dans le langage de Saint Thomas, Saint Thomas dira que la qualité, c'est la nobilitas. Mais c'est un accident, c'est quelque chose qui est dit d'un autre. Dit Pierre court. Pierre est apte à la course. Pierre est apte à la gymnastique. Il y a une qualité qui qualifie un autre, toujours. Donc c'est un accident. Ici, différent.
Si vraiment la qualité fait différer l'usia, la qualité est dans l'ordre substantiel. Donc, c'est une différence substantielle. C'est pas un accident.
Alors, comment ça se fait, ça? Vous voyez l'équivoque terrible qu'il y a entre les deux. Là, l'analogie est poussée à l'extrême. Qualité peut qualifier l'usia, et la qualité peut être un accident. Or, l'accident est autre que la substance.
Ça, c'est très très intéressant, parce que ça vient de faire comprendre
que si la qualité, je prends une hypothèse de recherche pour voir si c'est tout de suite, dès ce texte, vous voyez, c'est, les topics, ça doit nous faire réfléchir, hein, parce que c'est le contact avec les textes. Et le contact avec les textes, c'est très très important, parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé ça, qui a dit ça.
Alors, nous avons tout de suite l'opposition entre les deux. Si vraiment la qualité, c'est la forme. Vous voyez que la forme peut être accidentelle, peut être substantielle.
Alors, d'une certaine manière, la forme est au-delà de la distinction substance et accident. D'une certaine manière, la qualité, si elle est vraiment qualité, est au-delà de la distinction substance et accident.
Ça devient très troublant.
La distinction substance et accident est au niveau de l'être, pas au niveau de la forme. Pas au niveau de la forme. Ça veut dire, mais la forme, c'est une modalité de l'être, donc. Oui, oui, c'est sûr. Mais il faut quand même comprendre que ce n'est pas l'être. Et donc, il y a peut-être là quelque chose qui va nous montrer que ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire de dire que l'exis première qualité est un accident, mais dire que la qualité différente de l'usia fait différer les substances. Il y a quelque chose de substantiel, il peut y avoir quelque chose de substantiel dans la qualité. C'est intéressant parce que ça montre que la qualité va nous permettre d'une certaine manière de faire un pont entre substance et accident. Alors, est-ce que ce n'est pas un des rôles principaux de la qualité? De faire ce pont entre substance et accident. Et en ce sens-là, elle va pouvoir ennoblir l'ousia, la réalité, dans ce cas-là de plus profond. Posons ça comme point d'interrogation, comme recherche, parce que je crois qu'il faut tout de suite être alerté par ça. Donc ce qui nous manifeste l'originalité propre de telle ousia et ce qui la distingue des autres. Donc c'est l'ousia elle-même qui est caractérisée, qui est modifiée par la qualité. La qualité fait différer. Elle distingue. Elle fait différer au niveau de la substance. Elle fait différer au niveau de l'accident. Ça, c'est quelque chose de tout à fait capital. C'est pas uniquement la forme, c'est une forme qui fait différer. Alors, qu'est-ce que c'est que faire différer? C'est propre de la qualité. Mais comme c'est tout à fait autre chose comme réflexion, hein. Les catégories ne faisaient pas réfléchir beaucoup. C'était bon tiroir. Hein. Très bon tiroir. Très, très intéressant, très intelligent comme tiroir. Mais on ne peut pas dire que ça ne faisait beaucoup réfléchir. Tout de suite, quand je suis dans le livre d'Éditance, chapitre 19, tout de suite, je vois quelque chose de beaucoup plus fort. La qualité fait différer, elle distingue. Sa distinction est une distinction qui peut atteindre l'être en ce qu'il a de plus lui-même, en réalisant la différence de l'ousia. Donc ça va très loin. La qualité peut atteindre le cœur de l'être. L'ousia, et faire différer l'ousia. Dans le monde des êtres mathématiques, la qualité est ce qui rend le nombre tel, ce qui le distingue d'un autre, tandis que sa quantité est ce qui le met en continuité avec les autres. Donc nous retrouvons cette même idée. La qualité est ce qui rend le nombre tel. Donc il qualifie le nombre. Il qualifie la substance, il qualifie le nombre. On peut dire qu'il qualifie la substance l'ousia, il fait différer l'ousia, il qualifie le nombre et il différencie les accidents, c'est bien évident. Dans le monde du devenir, la qualité est la propriété des natures qui sont au principe du mouvement. Dans le monde des opérations volontaires, la qualité est la vertu ou le vice. Donc vous voyez que dans le monde du devenir, la qualité est la propriété des natures qui sont au principe du mouvement. Les contrariétés sont au principe du mouvement. Ainsi, tout peut se ramener à la différence de l'ousia et à la détermination des êtres mobiles. La qualité, c'est ce qui détermine l'être ou le devenir, et ce qui, en le déterminant, le fait différer. Voilà ce que Aristote nous fait comprendre en premier lieu. La qualité fait différer, elle fait différer en ennoblissant. Elle fait différer en donnant à la réalité son caractère propre, son originalité propre. On comprend alors pourquoi Aristote, dans le livre Delta, examine séparément les significations de la disposition et de l'exis, ainsi que celle du pathos. Ah, ça, c'est très curieux, que dans le livre Delta, vous voyez, nous avons donc des considérations différentes sur exis, diathesis, disposition, et le point de vue du pathos. Le point de vue du pathos, c'est vu. Nous avons donc exis 19, hein, chapitre 19. Chapitre 20, chapitre 21, et je crois chapitre 22. Chapitre 21, oui. Mais comme c'est curieux, dans le livre Delta, où Aristote énumère ce que c'est que la qualité, il ne met pas du tout dans la même rubrique tout toutes les qualités, comme il l'a fait pour les catégories.
Nous avons la qualité comme différence, nous avons la qualité comme exis et diathesis, et la qualité comme catégorie.
Nous avons donc trois chapitres réservés à la qualité. Alors pourquoi? Pourquoi Aristote éprouve-t-il le besoin, dans la philosophie première, de faire ces considérations différentes sur ce que, dans les catégories, ils étaient mis dans le même sac? Il faut se poser la question, parce que c'est pas pour rien, c'est comme on se pose la question pour saint Thomas, quand saint Thomas fait un article particulier, et quand saint Thomas réunit des diverses questions dans un même article. Il réunit dans un même article les cinq voies. Il ne fait pas cinq articles différents. Alors que d'habitude, chaque fois qu'il y a une difficulté particulière, il y a un article particulier. Or, comme chaque voie a une difficulté, il aurait pu très bien faire cinq articles successifs. Non, un seul article et cinq voies. Et ici, Aristote éprouve le besoin de traiter différemment la qualité, l'exis, la diathesis et le pathos. La disposition est soit selon le lieu, soit selon la puissance, soit selon la forme. C'est une détermination orientée, ordonnée. Du point de vue métaphysique, ce n'est plus uniquement dans la lumière de l'ousia qu'il faut la comprendre, mais aussi dans la lumière du bien. Ah, voilà pourquoi. Ce n'est plus
la diathesis, la différence, donc la qualité d'abord différence par rapport à l'ousia. Quand il s'agit d'exis et de diathesis, la qualité est vue non plus par rapport à l'être, mais par rapport au bien.
C'est vrai que je ne peux pas déterminer ce que c'est que l'exis et la diathesis sans regarder le bien. Il y a donc une considération toute nouvelle au point de vue métaphysique. La qualité va regarder le point de vue de la substance, la qualité va regarder le point de vue de l'acte.
Mais comme c'est complexe, hein, vous allez voir, si on est attentif à ce que j'ai sur ça, la qualité est comme au-delà, hein, au-delà de la division substance-accident. La qualité est comme au-delà de la distinction dans l'ordre de l'être, substance et acte. Et la qualité va regarder aussi bien la substance que l'acte.
Je ne peux pas ramener la qualité uniquement à la substance. Toute la métaphysique de la substance, hein, toute la métaphysique de la substance, c'est l'opposition de la substance et les accidents. Bon, alors, j'étudie la qualité comme un accident. Je ne peux pas étudier la qualité uniquement comme un accident. Elle déborde. C'est un accident qui est extrêmement curieux. C'est un accident d'une noblesse telle qu'il ne peut pas rester uniquement dans l'accident, puisqu'il est différent de la substance. Et puisqu'il est ordonné vers le bien. Et donc, dans la mesure où il est ordonné vers le bien, la qualité doit se comprendre par rapport à toute la métaphysique de l'acte. Vous voyez, comme la qualité est vraiment ce qui fait des ponts. Elle unit substance et accident. Elle va unir substance et acte. La qualité fait tout cela. Si je suis attentif, hein, à ce que dit Aristote, Aristote ne me donne pas la solution, mais il me montre que, en considérant la qualité, il la considère comme cela. La disposition est soit selon le lieu, soit selon la puissance, soit selon la forme. C'est une détermination orientée, ordonnée. Du point de vue métaphysique, ce n'est plus uniquement dans la lumière de l'ousia qu'il faut la comprendre, mais dans la lumière du bien, c'est-à-dire de la cause finale. Quant à l'exis, elle aussi fait appel à la cause finale. Le pathos est considéré à part dans la philosophie première. Cependant, Aristote affirme qu'il est la qualité suivant laquelle la réalité peut être altérée. Quant à un autre sens, il est l'altération elle-même, l'acte de ses qualités. Pourquoi le pathos est-il considéré de cette manière et n'est-il pas examiné avec la qualité alors qu'Aristote reconnaît que c'est une espèce de qualité dans les catégories? Donc vous retrouvez de nouveau cette petite considération par rapport au pathos. Vous voyez bien, hein, sans avoir sous vos yeux la philosophie première, dans le livre Delta, je reprends pour que vous voyez bien ce problème-là, parce que je crois que c'est intéressant. Dans le livre Delta, vous avez le chapitre 19 qui traite de la qualité. Vous avez le chapitre 20 qui traite de l'exis et la diathésis, donc de la disposition de l'habitus. Et vous avez le chapitre 21 qui traite du pathos. Or, selon les catégories, pathos, diathésis, exis font partie de la qualité. Alors pourquoi un chapitre particulier ? C'est intéressant de voir ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, on donne, si vous voulez, une nouvelle lumière à l'exis et à la diathésis. Donc on donne une nouvelle lumière à l'habitus et à la disposition, et une nouvelle lumière à pathos. Considérant que la lumière première de la qualité, qui fait dire que la qualité est différente de l'ousia, ne me permet pas de comprendre alors ce qui caractérise l'exis. Je ne peux plus comprendre comment l'exis est première qualité en ne regardant que la qualité comme différence de l'ousia. Je suis obligé de regarder comment la qualité disposition et habitus ne peuvent se comprendre qu'en fonction du bien et non pas en fonction de l'ousia. L'ousia n'est pas mon bien. Le bien, c'est la cause finale. Et donc, il faut les regarder dans la lumière de la cause finale. Quant au pathos, il faut encore une nouvelle lumière. Pourquoi ? Parce que lui, c'est la lumière. Avec un c'est astucieux. C'est très astucieux comme distinction. La qualité, nous la regardons dans trois lumières différentes. La lumière de la substance, la lumière du bien, la lumière du devenir. La lumière de la substance et du bien, c'est l'être. Et le lieu du bien. Vous avez trois considérations de philosophie première sur la qualité. La qualité, je peux la regarder relativement à la substance. La qualité, je peux la regarder relativement au bien. La qualité, je peux la regarder relativement au bien. Et c'est toujours la qualité. Nous avons donc, si vous voulez, dans la qualité, trois aspects différents, irréductibles les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'Aristote fait trois chapitres. C'est irréductible. Vous voyez bien le caractère analogique de la qualité. Quand vous la regardez du côté des catégories, vous regardez le caractère analogique des qualités du côté du léger, du côté du dire, de l'attribution. Ici, vous regardez le côté analogique du côté réel, dans la réalité. La qualité peut se référer à l'ousia. La qualité peut se référer au bien. La qualité peut se référer au devenir. Il y a donc trois domaines qui tombent directement sous le point de vue de la qualité. C'est assez astucieux d'avoir fait ça. Bon, vous ne l'auriez pas trouvé tout seul. Je ne crois pas. Vous avez dit quelqu'un, les catégories, on sait très bien. On a les espèces. Ah, attention. Si je veux regarder plus profondément, je vois que la qualité regarde le domaine de l'ousia, ça fait différer. Et ça fait différer jusqu'à l'ousia. Mais la qualité aussi, c'est quelque chose d'ultime. Ça doit être regardé du côté de la cause finale. Et la qualité regarde le devenir. Alors, il faudrait regarder après ça, nous n'avons pas le temps, ça c'est simplement le petit schème. Je voudrais que ça se mette un peu dans votre intelligence pour que vous voyez la complexité de la qualité. Et que ce n'est pas commode du tout bien voir ce que c'est que la qualité. et que vous devez préciser au niveau des catégories et au niveau de la philosophie première. Il faudrait regarder maintenant la manière dont Aristote utilise la qualité dans ses écrits philosophiques. Il faudrait voir comment, dans son étude philosophique, il se sert de la qualité. En philosophie du vivant, et puis en philosophie première. Il est incontestable que l'importance de la qualité est une des caractéristiques de la philosophie d'Aristote. Philosophie de l'analogie, philosophie de la qualité. Mais comprenons bien que cette philosophie de la qualité présuppose la découverte de l'ousia. À l'égard de l'ousia, Aristote se pose la question du tiesti, mais il ne le fait pas pour la qualité. Très curieux. Le tiesti de la qualité, non. Ça se manifeste tout de suite. La qualité n'est pas découverte intuitivement parce qu'elle n'est pas un principe. Cependant, à partir de la découverte de la qualité, une nouvelle question se pose, celle du poionti, qui, nous le verrons, se pose explicitement à l'égard de l'acte comme celle du tiesti. Donc, retenez ça, retenez ces deux grands lieux importants pour comprendre la qualité chez Aristote. Il y aurait encore un philosophe à regarder qui est très qualitatif, Plotin. Mais il y a les trois grands, il faut toujours regarder les trois grands. Parménide est un grand, mais c'est un grand qui initie. Mais c'est Platon, Aristote, Plotin. Plotin ne peut accepter la conception aristotélicienne de la qualité. Pour lui, il faut diviser les qualités en qualités de l'âme et qualités corporelles. Descartes fera exactement la même chose. Alors, rapprocher Descartes de Plotin, c'est un petit problème qui serait très intéressant pour la qualité. Pour la qualité, là, vous saisissez quelque chose de semblable. Ah oui, ça n'a l'air de rien, ça. Mais tout de suite, on voit tout de suite la différence. La qualité n'est plus regardée pour elle-même. Elle est regardée dans son exercice. Tandis que là, ça fait vraiment une étude de la qualité. Et elle est très astucieuse. C'est très astucieux de voir la qualité par rapport à la substance, par rapport au bien, par rapport au devenir. C'est un point de vue métaphysique. Bien, à la suite d'Aristote, Plotin refuse les catégories d'Aristote. Il n'aime pas les catégories d'Aristote. Plotin, néo-platonisme, hein, le père du néo-platonisme, hein, Plotin, faut pas l'oublier. Donc, dès que vous êtes en face d'un néo-platonicien, vous succédanez de Plotin. C'est pas, parce que Plotin est quand même un type assez génial. C'est quelque chose de très grand, Plotin. C'est merveilleux. Mais évidemment, Plotin ne forme pas beaucoup. Et on voit tout de suite. Plotin considère que la première distinction de la qualité, c'est la qualité de l'âme, les qualités psychicas, donc les qualités psychiques, et les qualités corporelles, somaticas. Alors, vous avez donc qualité psychique et qualité intérieure, qualité corporelle. La qualité psychique, psychique de l'âme. No.
donc cette division-là
se prend du sujet. Et par le fait même, c'est l'inhérence de la qualité par rapport au sujet.
C'est donc une qualité qui se prend du côté de l'exercice.
Ce n'est plus une division objective. Ce n'est plus la division par rapport à ce qu'est la qualité. Il ne peut y avoir entre les deux, entre ces qualités corporelles et ces qualités psychiques, il ne peut y avoir entre les deux d'unité générique. On est en face d'une altérité. Il ne peut pas y avoir au-dessus, vous voyez, unité générique qui serait justement, qui permettrait d'avoir quelque chose de plus. L'unité générique, c'est le sujet, c'est l'homme.
L'homme peut avoir des qualités de l'âme et des qualités du corps.
Mais ça reprend un point de vue descriptif, hein. Si le beau sensible et le beau intelligible n'ont de commun que le nom, il en va de même, ajoute Plotin, pour la qualité, le topoion. Cependant, il y a un lien entre les qualités incorporelles et les qualités sensibles. Nous mettons les qualités corporelles au nombre des choses qui sont dans l'ousia sensible, dit Plotin, parce qu'elles sont des affections pâtées. Parce qu'elles sont des affections inclinées vers le sensible et des raisons d'une âme particulière. C'est assez curieux de bien voir le lien qui existe entre les deux, la diversité totale qui existe entre les qualités sensibles et les qualités proprement corporelles. Ce pathos, ce partage entre le corps auquel il s'applique et l'âme dans laquelle il est, c'est ce pathos que nous attribuons à la qualité qui, sans être corporelle, se rapporte au corps. Les qualités qui affectent l'âme ont donc un rapport au corps. Quant aux qualités corporelles, elles se divisent selon les sens. Les unes arrivent par les yeux, les autres par l'oreille, et ainsi de suite. En ce qui concerne les qualités appartenant au monde sensible, Plotin distingue les qualités qui sont les différences de l'ousia et celles qui ne sont qu'accidentelles. Donc, vous voyez comment on va retrouver après coup dans les qualités qui sont justement les qualités proprement celles qui, les qualités sensibles, celles qui appartiennent au monde sensible, donc les qualités corporelles,
celles qui sont substantielles, celles qui sont accidentelles. Cette distinction qui pour Aristote est première devient seconde.
Exactement comme pour Descartes. Très très curieux. Exactement la même chose. Et c'est toujours intéressant, je vous ai déjà dit, hein, il faut saisir ce que c'est que la division. On divise quelque chose. Vous voyez, qu'est-ce qui est divisé ici? Qualité intérieure, qualité de l'âme, qualité corporelle. Qu'est-ce qui est divisé? Ce n'est pas la qualité. C'est l'âme et le corps. Donc c'est une division qui est accidentelle. Ce n'est pas une division essentielle. C'est l'âme et le corps qu'on divise. C'est une qualité qui se prend. C'est une division qui se prend du côté de l'exercice, de l'aspect existentiel de la qualité, et non pas de la qualité comme telle. Alors, on peut donc dire en résumé que la qualité chez Plotin est extérieure à l'ousia, l'ousia étant elle-même au niveau de l'être intelligible, tandis qu'elle caractérise le monde sensible, qui est profondément un monde de quantité de qualité. Pour donc Plotin, la qualité est particulièrement intéressante pour le monde corporel. Pour le monde de l'âme, le monde intérieur, il a distingué qualité de l'âme. Mais au fond, ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Dès que je suis au niveau de l'âme, ce qui intéresse Plotin, c'est le point de vue de la substance. Parce qu'au fond, l'âme est considérée comme séparée, comme subsistant en elle-même, et donc comme une substance. Elle est substantielle, donc la qualité est secondaire. Tandis que dès que je suis dans l'ordre du devenir, dans l'ordre corporel, la qualité devient importante. Donc, au fond, c'est cet aspect-là qui va garder. L'Aristote, c'est l'aspect du devenir. Alors, il faudrait regarder, mais ici c'est énorme et je ne vais pas le faire avec vous. Ce serait quand même très intéressant de regarder dans saint Thomas ce qu'est devenue la qualité. Saint Thomas se sert de la philosophie, il est bien évident. Et c'est peut-être un des aspects pour mieux voir comment le théologien se sert de la philosophie, de voir comment il se sert de toute cette philosophie de la qualité. Parce que vous retrouvez alors profondément dans Saint Thomas toute la diversité des catégories, mais Saint Thomas ne fait plus, au niveau théologique, la distinction que fait Aristote. Saint Thomas se sert indistinctement des catégories et la philosophie première. Donc la distinction que fait Aristote, qui est si nette entre catégorie et philosophie première, n'existe plus dans Saint Thomas. Ça, c'est très important de se le rappeler. C'est ce qui montre que Saint Thomas, même si on le lit avec beaucoup d'attention, ne forme pas à la philosophie. Il forme à la théologie. C'est le théologien. Alors, ce théologien est très intelligent et il a une philosophie. Mais saint Thomas ne fait jamais de philosophie pour elle-même. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Quand il commente Aristote, c'est toujours en vue de sa théologie. Il le commente avec beaucoup d'intelligence, il essaie de comprendre, mais c'est toujours dans une vision de sagesse. Toujours. Ça ne veut pas dire qu'il comprend mal Aristote, non. Il le comprend pour l'utiliser. C'est la manière la plus admirable de comprendre quelqu'un. Savoir exactement le jeu de clés qu'il a dans ses poches, pour l'utiliser. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Mais on veut l'utiliser, on veut savoir exactement ce qu'il y a et comment on peut l'utiliser. Alors, il y a un lieu, ce serait très intéressant à faire, de voir comment, dans saint Thomas, la qualité est utilisée. Alors, un mot seulement, parce qu'il faut quand même dire un mot sur saint Thomas à propos de la qualité. Qu'est-ce que vous allez voir? Quelle est la pièce dominante dans saint Thomas sur la qualité? C'est l'habitude. Oui, comme c'est curieux. Ce n'est pas la différence de vous y a. C'est l'habitus. L'habitus entend qu'elle va être reliée au bien. Et donc saint Thomas va mettre l'accent. Vous voyez, il va dire que la qualité est disposition de l'ousia. Ça, il répète Aristote. Il répète constamment. Saint Thomas répète constamment Aristote. Mais ce qu'il y a d'original dans saint Thomas, où on peut saisir comment il a saisi ce que c'était que la qualité, c'est que il mettra en pleine lumière l'habitus. Je ne peux rien comprendre à la théologie morale de saint Thomas si je ne comprends pas ce que c'est que l'habitus. C'est la pièce dominante de la théologie morale. C'est l'exis, l'habitus. Et cet habitus va jouer un rôle extrêmement important au point de vue théologique, puisqu'il va nous montrer que les vertus théologales sont des habitus. Toupet pour faire ça. Dire que les vertus théologales sont un habitus. Exis. Il dira que les dons du Saint-Esprit sont des habitus. Il faut au carré, n'est-ce pas, pour pouvoir dire ça. Que les dons du Saint-Esprit sont des habitus. Vous voyez, l'utilisation de l'habitus. C'est extraordinaire de voir ça. Les vertus sont des habitus, hein. Aristote l'a dit, il le répète. Mais pour les vertus théologales, voir que les vertus théologales sont des habitus et que les dons du Saint-Esprit sont des habitus. Alors ça donne une espèce de souplesse extraordinaire à cette notion d'habitus. Oui, et les grands commentateurs de saint Thomas, par exemple, Jean de saint Thomas, a très très bien compris. Le traité sur l'habitus au niveau proprement scolastique le meilleur, c'est Jean de saint Thomas. Ceux qui s'intéressent à saint Thomas et à cette pièce dominante, hein, l'habitus, c'est quelque chose dans saint Thomas capital. Et voyez, chez Aristote, c'est très important, parce que dans les catégories sélexis, c'est donc... Mais dès que je regarde la métaphysique, je vois très bien que la différence de Lousia passe avant. Plus chez saint Thomas. Plus du tout. C'est complètement perdu, ça. Il faut le redécouvrir dans Aristote. Alors, saint Thomas va dire que la qualité, c'est la nobilitas. Ça aussi, il y a un terme nouveau. Qui doit être très très propre à l'époque du Moyen-Âge. La nobilitas. La qualité, c'est la nobilitas. Pourquoi ? Parce que la qualité ennoblit. Donc, avant tout, l'habitus. L'habitus ennoblit. Quelqu'un qui a des habitus au point de vue de l'intelligence, ben, il est ennobli par ses habitus. Il y a quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui va permettre de donner comme une seconde nature. Et l'habitude, c'est comme une seconde nature. Mais c'est une seconde nature orientée vers le bien. La première nature est assez souple, pas très orientée. La seconde nature qui est l'habitude, c'est orientée vers le bien. Alors vous avez donc un homme qualifié grâce aux habitudes. Quand vous parlez d'un ouvrier qualifié, vous pourriez dire qu'un homme qui a les vertus, qui a les habitus, il est qualifié. Il est qualifié dans le domaine humain par les vertus, il est qualifié dans le domaine divin par les dons du Saint-Esprit. On est des ouvriers qualifiés du Saint-Esprit. Grâce aux dons, c'est ça qui est compris dedans. Vous voyez, c'est l'habitus qualifie. La nature implique des tas de virtualités, des tas de développements multiples. Et l'habitus donne des plis orientés vers la fin. Et donc, ça vous qualifie profondément pour que vous puissiez avoir une efficacité plus grande. Je crois que c'est ça qui domine dans saint Thomas. Il me semble bien que c'est cette question de l'habitus. Alors, il faudrait regarder le grand tournant occamien. La manière dont le bois avale le petit lapin. Vous voyez ? Alors ça, c'est regarder occam. La manière dont Occam va de fait avaler la qualité. C'est très intéressant. Parce que toujours la qualité, c'est pour nous un domaine plus facile à comprendre que l'ousia. C'est beaucoup plus facile. Alors, il faut regarder toujours c'est les tournants, voir qu'est-ce qu'on avait exactement comme pour Heidegger. Pour Occam, la qualité est-elle vraiment distincte de la substance et de la quantité ? La question est plus complexe et plus nuancée qu'on l'a dit parfois. Ce qui semble certain, c'est que, pour lui, certaines qualités seulement sont distinctes de la substance. Et que la quantité n'est pas distincte de la substance ou de la qualité. Alors c'est pour ça qu'on va être en présence d'une substance quantitative. Et là aussi, vous voyez, on retrouve évidemment Descartes, ou plus exactement Descartes va puiser là-dessus, la substance quantitative, la substance corporelle.